Merci d'être avec nous. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur RFI. Il est 9h à Port-au-Prince, 13h temps universel.
Anne Contner.
RFI Midi, dernière demi-heure, comme chaque jour, consacrée à l'actualité d'Haïti et des Amériques. Nous verrons dans un instant avec notre invité à quel point les violences des gangs pèsent sur l'agriculture en Haïti et sur les zones rurales qui sont très affectées. Notre dossier du jour, au Pérou, où une nouvelle loi menace la forêt amazonienne et la vie des communautés autochtones. Et puis, l'actualité des Outre-mer, Tiziana Maron, nous irons en Guadeloupe avec vous, où le syndicat enseignant UNSA se mobilise.
Oui, il dénonce la fermeture du dispositif Ulysse dans un collège du département à la rentrée prochaine. Les détails à suivre, Anne.
Tiziana Maron, on vous retrouve dans une vingtaine de minutes. Et avant cela, on va faire le point sur les dernières infos avec Stéphane Geneste.
RFI Midi.
Stéphane, on commence avec les yeux tournés vers le ciel.
Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend.
Oui, le soleil a rendez-vous avec la lune. Une éclipse solaire totale a lieu aujourd'hui au Mexique. Elle va traverser les États-Unis. Elle se terminera au Canada. Pendant quelques minutes, la lune va donc recouvrir entièrement le disque central du soleil. Il fera en somme nuit, en plein jour. Des millions d'habitants pourront donc admirer et vivre cet événement, dont vous, Thomas Harms. Bonjour Thomas.
Bonjour Stéphane.
Vous êtes en route pour Waco, au sud de Dallas. Il est 8h01 du matin. Le soleil vient de se lever. Pourtant, elle va bien disparaître dans à peu près 4 heures. Et Thomas, on attend cet événement avec impatience.
Oui. Alors quand les gens ne roulent pas en direction du meilleur endroit pour apercevoir l'éclipse, eh bien, ils regardent le ciel, car la météo, c'est la grande question. Car une bonne partie du trajet de l'éclipse totale devrait en fait être sous les nuages et la pluie, hein, de quoi doucher les espoirs, hein, des chasseurs d'éclipse qui, pour certains, ont réservé leur hôtel depuis un an, ou d'autres qui ont dépensé 5 à 10 000 dollars, rien que ça, en voyage organisé. Quoi qu'il en soit, vous le disiez, hein, plus d'un million de visiteurs sont attendus ici, à l'ouest d'Austin, à San Antonio, à Dallas ou à Waco, où je me rends. Les lunettes, hein, pour regarder le soleil en sécurité sont disponibles partout depuis une semaine. Et puis, le business des toilettes portables a également connu un pic, hein. Toutes les petites villes et les grandes sur le trajet de l'éclipse se sont dotées du nécessaire en prévision. Car il y aura du monde, hein. De nombreux parents ont retiré leurs enfants de l'école aujourd'hui pour vivre l'expérience en famille, avec des chaises pliables et des sandwichs pour la tente, des couvertures pour les quelques minutes de nuit en plein jour. Car il fera frais, hein. D'un coup, on va passer d'une vingtaine de degrés à une petite dizaine. Alors rien qu'au Texas, on estime les retombées économiques à des centaines de millions de dollars de ces quelques minutes. Ici, l'éclipse totale durera le plus longtemps que dans les 14 autres États américains traversés, jusqu'à 4 minutes 13 et l'éclipse totale est attendue dans 5h30 maintenant.
Patience donc, Thomas Harms en direct du Texas pour RFI.
On en vient à présent, Stéphane, à ces progrès dits significatifs en vue d'une trêve à Gaza.
C'est ce qu'annonce un média égyptien citant une source proche des négociations qui se déroulent en ce moment au Caire. Nouvelle salve de pourparlers pour une trêve et pour la libération d'otages. Et en parallèle, Israël maintient ses projets d'offensive terrestre sur la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza, où plus d'1,5 million de personnes s'y sont réfugiées. L'État hébreu qui, dans le même temps, a annoncé le retrait de ses troupes du sud de l'enclave palestinienne. Il y a donc désormais moins de soldats israéliens dans le territoire palestinien qu'il n'y en a jamais eu depuis le début de la guerre, le 7 octobre dernier. Et Joe Biden avait été très clair, hein, lors de son appel à Benjamin Netanyahou la semaine dernière. Il voulait des résultats. Mais l'annonce d'Israël hier ne correspond pas forcément à ce qu'attendait le président américain Kerry Newton.
On aurait pu avoir un doute hier, se dire que l'armée israélienne quittait le sud de Gaza pour de bon, mais Washington sait qu'Israël ne va pas se replier aussi facilement que ça, même si les États-Unis sont de plus en plus critiques des actions de leur allié. Une opération à Rafah reste bien à l'ordre du jour. On sait que Benjamin Netanyahou n'y a pas renoncé, même si Joe Biden avait prévenu que ce serait sa ligne rouge. Cela a d'ailleurs été déjà confirmé ce matin par un général israélien. Les troupes seraient en train de se regrouper pour être mieux redéployés sur Rafah. Des opérations ciblées, y compris à Khan Younes, devraient continuer aussi. La Maison-Blanche avait anticipé et déjà temporisé. Le porte-parole John Kirby a expliqué un peu plus tôt que les soldats partaient en repos après 4 mois sur le terrain. Washington compte certainement sur la reprise des négociations pour la libération des otages au Caire pour que Rafah ne se concrétise pas et préfère pour l'instant ne pas réélever la voix. Carrie Newton, New York RFI.
Et l'Allemagne qui est devant la Cour internationale de justice justice. Aujourd'hui, Berlin sommet de s'expliquer par le Nicaragua sur son soutien à Israël. Managua qui affirme que Berlin doit cesser d'urgence de fournir des armes à l'État hébreu tout en fournissant simultanément de l'aide à Gaza. Un tableau jugé grossièrement biaisé par les avocats allemands présents à la Cour internationale de justice à La Haye.
Elon Musk, lui, est dans le collimateur de la justice brésilienne.
Le sulfureux patron de Tesla et de SpaceX intéresse les magistrats brésiliens. Un juge de la Cour suprême a annoncé ce dimanche l'ouverture d'une enquête contre le propriétaire de la plateforme X, anciennement Twitter, qu'Elon Musk a racheté l'année dernière. Et si ce magistrat a pris cette décision, c'est parce qu'en fait, le milliardaire américain a commencé à s'en prendre violemment à lui. Il réclamait même sa démission, Christophe Paget.
Oui, depuis des années, le juge Alexandre de Moraes est le fer de lance de la lutte contre la désinformation au Brésil. Il a ainsi fait bloquer nombre de comptes X accusés de propager de fausses informations. Certains appartenaient à des personnalités influentes, pour la plupart des sympathisants de Jair Bolsonaro. Samedi soir, Elon Musk a contre-attaqué, affirmant qu'il allait contester les décisions du juge en levant toutes les restrictions. Le lendemain, il affirmait même qu'Alexandre de Moraes devait démissionner ou être destitué pour avoir trahi la constitution du Brésil. Alexandre de Moraes a alors ordonné l'ouverture d'une enquête contre lui, évoquant dans un arrêt une supposée instrumentalisation criminelle de X par le milliardaire et enjoignant le réseau social de s'abstenir de désobéir à tout ordre judiciaire, sous peine d'une amende de plus de 18 000 euros par compte bloqué réactivé. Après les attaques d'Elon Musk, le camp du président Lula a appelé à réguler de toute urgence les réseaux sociaux. Par contre, de nombreux partisans de Jair Bolsonaro ont, eux, applaudi le milliardaire. D'autant que c'est Alexandre de Moraes qui préside le tribunal spécial électoral qui, on s'en rappelle, en juin dernier, avait déclaré inéligible l'ancien président d'extrême droite.
Les explications de Christophe Paget.
On reste en Amérique latine, on s'arrête au Mexique où la campagne présidentielle bat son plein.
Le 2 juin prochain, 97 millions de Mexicains vont voter pour élire députés, maires, gouverneurs et donc leur nouveau président. Hier dimanche avait lieu le premier débat présidentiel. Xochitl Gálvez, qui représente la coalition PRI-PRD-PAN, et Jorge Álvarez Maynes du Mouvement Citoyen ont affronté Claudia Sheinbaum du parti au pouvoir Morena. Et parmi les thèmes abordés, la santé, l'éducation, les violences contre les femmes, celui de la lutte contre la corruption a d'ailleurs particulièrement animé les candidats. Et vous avez suivi ce débat pour RFI, Gwendolina Duval.
À de nombreuses occasions, les trois candidats ont profité du temps imparti pour s'attaquer personnellement, brandissant pour preuve des photos et statistiques sur des affiches cartonnées.
Et pour ça, je dis que ces campagnes sont financées avec de l'argent illégal. Et malheureusement, ce sont les Mexicains qui payent.
Jorge Álvarez Maynes, ou encore Xochitl Gálvez, la principale opposante qui est restée fidèle à sa stratégie d'attaquer l'administration actuelle pour s'en prendre à sa rivale.
Claudia, la corruption n'a jamais été pire qu'aujourd'hui. Ton programme est un programme de corruption.
Claudia Sheinbaum, favorite des sondages, a mis en avant son bilan en tant qu'ancienne maire de la capitale mexicaine. Elle a défendu aussi son intention de continuer dans la lignée du gouvernement d'Andrés Manuel López Obrador.
Durant mon mandat à la ville de Mexico, il y a eu une transparence absolue. Sans cela, nous n'aurions pas reçu presque 10 prix. Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un président honnête. Jamais vous ne pourrez dire la même chose des anciens des partis du PRI et du PAN que représente l'autre candidate.
La sécurité, autre grand thème au Mexique, sera discutée par les candidats lors d'un des deux prochains débats qui auront lieu avant les élections. Gwendolina Duval, Mexico, RFI.
Et puisqu'on retient également ce lundi, c'est cette nouvelle attaque de Donald Trump contre l'avortement aux États-Unis. À l'ancien locataire de la Maison-Blanche et candidat républicain à la présidentielle de novembre prochain, d'y vouloir laisser chaque État légiférer sur cette question qu'est l'avortement. Donald Trump qui semble revoir sa copie, hein, puisqu'en mars dernier, il avait d'abord indiqué qu'il pourrait se prononcer pour une interdiction nationale au-delà de 15 ou 16 semaines.
Merci Stéphane Geneste. Restez tous avec nous. Tout de suite, on continue à parler de l'actualité du continent américain.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
La transition politique progresse en Haïti. Le conseil présidentiel se met en place laborieusement et la presse suit chaque étape. Gazette Haïti nous apprend qu'un accord a été envoyé hier à l'organisation régionale CARICOM pour transmission ensuite au Premier ministre démissionnaire Ariel Henry. Et à en croire l'agence Alter Presse, Marine de la Moissonnière, la transition prendra fin avec l'élection d'un nouveau président dans 2 ans.
Oui, ce sera le 7 février 2026, selon Alter Press, qui a pu consulter ce fameux accord politique signé la semaine dernière par une vingtaine de personnalités haïtiennes. Le mandat du Conseil présidentiel prend fin le 7 février 2026, précise ce texte, date à laquelle donc le nouveau président entrera en fonction, un président qui aura été élu.
L'organisation de ces élections est donc l'un des objectifs du Conseil présidentiel de transition, mais il y a aussi, au cours des 22 mois de transition prévus, d'autres chantiers très nombreux, Marine.
Oui, un programme vaste et ambitieux. Alter Press détaille les grandes lignes de la feuille de route: rétablir la sécurité, assainir les institutions, lutter contre la corruption et l'impunité, préparer un plan économique pour soutenir la relance humanitaire et économique. Pour parvenir à tout cela, des structures seront mises en place, explique l'agence de presse qui parle d'un Conseil national de sécurité, d'un comité de pilotage, d'un parquet national financier ou bien encore d'une commission de vérité, justice et réparation pour faire la lumière sur les crimes, notamment les crimes de sang commis ces derniers temps.
Et pendant que les discussions politiques s'éternisent, la situation continue de se dégrader en Haïti. Tout le pays est affecté, y compris les zones rurales.
Oui, à lire sur le site d'Aïbo Post, ce reportage dans l'Artibonite, dans le nord-ouest du pays, cette zone agricole devenue vallée du crime. Dans ce département, les gangs volent le bétail, attaquent et pillent les paysans, les abus sexuels deviennent monnaie courante, les morts s'empilent, racontent les journalistes d'Aïbo Post. Dans ces conditions, beaucoup de paysans abandonnent des terres cultivables, explique le site. Impossible pour eux de payer la taxe que les gangs leur réclament pour pouvoir récolter leurs produits ou pour arroser leurs plantations. Et puis il y a aussi le prix des engrais qui s'est envolé, les marchés qui ne sont plus accessibles. Conséquence de cette situation dramatique, de nombreuses localités sont abandonnées et ceux qui restent n'ont nulle part où aller, confie une source anonyme à Aïbo Post.
Vous nous le disiez Marine, l'agriculture souffre beaucoup de la mainmise des gangs sur la capitale et ses environs, du blocage des routes, du port et de l'aéroport. Paolo Silveri est directeur pour Haïti du Fonds international pour le développement agricole, c'est une agence des Nations Unies. Et il a expliqué à Achim Lippold à quel point les zones rurales étaient elles aussi affectées donc par ces violences.
Ce que la FAO a enregistré indique qu'en 2023, la production agricole a chuté d'environ 39% pour les maïs, 34% pour le riz, 22% pour les sorgos par rapport à la moyenne quinquennale. Donc il y a une situation assez grave et surtout qui continue de se détériorer à cause de la violence, des blocages des voies de communication qui empêchent aux denrées alimentaires de décoller sur les marchés et aussi aux intrants et aux semences d'arriver aux champs. Donc il y a une situation de violence qui menace directement et indirectement la sécurité alimentaire du pays.
Alors selon l'ONU, presque la moitié de la population haïtienne se trouve en situation d'insécurité alimentaire. Est-ce que vous, avec votre organisation, donc le FIDA, vous pouvez encore poursuivre votre travail sur place?
Le FIDA est présent en Haïti depuis le début de ses activités, donc depuis 1978. On a investi presque 300 millions de dollars. On a appuyé plus de 100 000 familles depuis, donc un demi-million de personnes. On a toujours des activités en cours. Moi, je suis en contact quotidien avec nos équipes. Évidemment, dans une situation aussi délicate que ça, on a beaucoup insisté sur des formulations de projets à gestion décentralisée. L'argent part du FIDA, il arrive à Port-au-Prince, mais il est canalisé à travers le ministère de l'économie et des finances.
Justement, vu que l'instabilité politique affecte aussi le fonctionnement de l'administration, est-ce que vous avez des garanties que l'argent arrive sur place dans les zones rurales auprès de ceux qui en ont besoin?
Garantie, parler de garantie en ce moment en Haïti est vraiment excessif. Tout de même, au jour, jusque-là, on a la confirmation que nos équipes sont en place. Le ministère de l'Agriculture centrale a eu des dégâts, a été attaqué, mais comme je le disais, la canalisation de ressources est à travers le ministère de l'Économie et des Finances qui continue à opérer à travers d'un schéma décentralisé. Évidemment, les gens travaillent depuis chez eux, mais les connexions Internet fonctionnent, les systèmes bancaires continuent de fonctionner. En ce moment, le FIDA, comme les autres agences du système, sont alignés avec la position de la coordinatrice résidente des Nations Unies, qui est celle de stay and deliver, rester et délivrer notre mandat.
Donc, malgré la crise actuelle, le FIDA continue à travailler avec le gouvernement démissionnaire qui gère les affaires courantes. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur les projets en cours ?
En ce moment, il y a trois opérations en cours sur la petite irrigation, sur les zones marines, sur la pêche artisanale, sur les bassins versants, sur la recherche appliquée, sur les champs-écoles paysans. Et on est en train de terminer la formulation d'un projet qui s'appelle EFOSE, qui investit une somme additionnelle de 32 millions de dollars sur la sécurité alimentaire du Sud-Est. Le projet en cours de réalisation prévoit d'atteindre 40 000 familles. Et les autres projets en cours, on parle entre 60 et 70 000 familles. C'est un peu une goutte dans l'océan, mais tout de même, pour ces familles-là, ça fait une différence importante. Et parfois, ça fait une différence entre la vie et la mort.
Paolo Silveri, directeur pour Haïti du Fonds international pour le développement agricole. Il répondait à Achim Lippold.
RFI Midi.
Condenamos énergiquement esta violenta irrupción de personal de seguridad.
Nous condamnons fermement cette descente violente du personnel de la sécurité d'État de l'Équateur dans notre ambassade. Vous entendez en ce moment la ministre mexicaine des Affaires étrangères qui annonce son intention de saisir la Cour internationale de justice aujourd'hui. Le pays a déjà rappelé son personnel diplomatique deux jours après un raid de la police équatorienne pour arrêter au sein même de l'ambassade du Mexique un ancien vice-président recherché par la justice. Les locaux diplomatiques sont considérés comme un territoire national en sol étranger et cette descente, elle a été condamnée sur le continent, au Brésil, au Chili, en Argentine, jusqu'à l'Union européenne et aux Nations unies. Aujourd'hui, par conséquent, l'Équateur est très isolé sur la scène diplomatique. Mais c'était prévisible, Éric Sanson et le président Noboa étaient manifestement prêts à prendre le risque.
De l'Union européenne aux Nations unies, en passant par l'Organisation des États américains, l'Équateur fait l'unanimité contre lui. Même deux pays proches, comme les États-Unis et l'Argentine, n'ont pas cautionné la rupture de l'inviolabilité des ambassades. Pour le politologue Gustavo Hisch, le président Daniel Noboa a ouvert la boîte de Pandore.
C'est terrible, car au niveau des relations internationales, cela fait passer l'Équateur pour une république bananière. Un pays où l'on ne peut pas investir en toute sécurité, car les conditions juridiques ne sont pas réunies. Un pays où, en fonction de ses intérêts, le pouvoir en place peut à tout moment changer les règles du jeu.
Si la condamnation internationale est forte, il n'en est pas de même à l'intérieur du pays, selon le colonel Mario Pazmiño, analyste politique.
Je crois que la population soutient la décision du président et on le verra lors du référendum sur la sécurité du 21 avril prochain. Les Équatoriens sont fatigués de l'impunité dont profitent ces délinquants qui se moquent de nous, qui usent et abusent de traités internationaux comme la Convention sur l'asile politique.
Reste que le président Noboa a pris un gros risque pour apparaître comme un homme fort et essayer de gagner le prochain référendum et pourquoi pas la réélection l'an prochain. Éric Sanson, Quito, RFI.
Cette affaire est à la une des journaux au Mexique. Le Mexique qui dit donc son intention de saisir la Cour internationale de justice. Et les médias dans ce pays reviennent aussi, Marine de la Moissonnière, sur le premier débat entre les candidats à la présidentielle.
Un débat ennuyeux, juge le journal Milenio. Les trois candidats ne se sont pas écoutés les uns les autres, se sont mal comportés et ont été les personnages d'une fresque déchirée. Un pays polarisé dans lequel l'autre n'a pas sa place. Les candidats ont préféré passer leur temps à salir leurs adversaires plutôt qu'à répondre aux questions, insiste Milenio. Le journal Excelsior, lui aussi, retient de ce débat les coups bas et l'absence de propositions de la part des candidats.
Radio Francia Internationale.
Notre dossier du jour, direction la forêt amazonienne au Pérou, où beaucoup d'ONG, de chercheurs et d'États étrangers s'inquiètent d'un retour en arrière concernant la protection de l'environnement. La mise en place d'une nouvelle loi voulue par certains députés proches de grandes entreprises et d'intérêts économiques locaux. Une loi dont les conséquences pourraient être dramatiques et encourager la déforestation, comme on peut l'entendre dans ce reportage de notre correspondante Juliette Chaignon.
Dans ses bureaux de Puerto Maldonado, au sud de l'Amazonie, Luisa Romeros Rios liste les défauts de cette nouvelle loi. Première critique, la forme, d'après cette responsable de la SPDA, une association péruvienne de protection de l'environnement.
Il n'y a pas eu de consultation préalable avec les communautés autochtones. Et c'est un point qui nous alerte, car la loi forestière, à l'origine, a été l'une des premières politiques au Pérou pour lesquelles il y avait une sorte de processus participatif.
Plus préoccupant, cette loi permettrait de faciliter la déforestation et les activités illégales destructrices de l'environnement.
Il y a des endroits où des activités illégales ont engendré de la déforestation. Ces zones avaient été accordées à des usagers à travers des titres d'habilitation. C'était par exemple des concessions pour d'autres produits de la forêt qui ont été affectés par des activités minières ou de trafic de terres. Et donc, avec la modification de la loi, il se pourrait que les personnes qui ont envahi ont eu un impact sur les concessions forestières puissent, à moyen ou long terme, avoir un droit formel sur ces espaces.
Une issue d'autant plus probable que l'État péruvien contrôle peu la zone amazonienne.
Cette loi va permettre de légaliser des choses qui existent déjà en pratique, mais ce n'est pas parce qu'elles existent qu'elles sont bonnes.
Les atteintes à l'environnement en Amazonie n'ont en effet rien de nouveau. Sur le terrain, Roy Riquelme et Juan Julio Duran ont déjà des difficultés. Leur association Jungle Keepers administre une concession dont Roy nous montre la carte.
Comme vous pouvez le voir, cette zone est encore verte. Mais on voit aussi comme des taches. Ce sont des espaces déforestés pour de la monoculture. C'est de la déforestation qui est générée tous les jours et qui augmente.
Pour le vice-président de Jungle Keepers, Juan Julio, la loi risque de favoriser l'invasion de trafiquants de bois ou de terre dans la concession, ce qui demandera plus de surveillance et donc plus de moyens.
Nos efforts ne sont définitivement pas valorisés comme ils le devraient, alors que l'Amazonie est le poumon du monde. Pour nous, cette loi est très dangereuse.
Un danger aussi pour les communautés autochtones.
Dans notre zone, les communautés du lit de la rivière Cuenca sont en danger, car dans la région, ces territoires sont parmi les mieux conservés. Cela attire les entreprises qui travaillent dans le bois. Elles viennent, elles extraient du bois pendant un ou deux ans et laissent la forêt vide. Mais les peuples qui vivent là, eux, restent. La question, c'est qu'est-ce qui se passe ensuite pour eux ?
La pregunta está, ¿qué va a pasar después?
Contrairement à ce qu'il a laissé entendre en janvier, le gouvernement n'est pas revenu sur cette loi votée par le Congrès, malgré des alertes de l'ex-ministre de l'Environnement et du Service national des forêts, comme l'a révélé le média Oro Publico. Les professeurs de l'université de San Marcos, l'une des plus importantes du Pérou, dénoncent aussi l'impact de cette loi. Juliana Becerra Celis, directrice du département d'ingénierie environnementale.
El Pérou.
Le Pérou a signé les accords de Paris en 2020. Notre pays s'était engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030, avec un objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Mais si l'on regarde les niveaux de déforestation atteints par le passé, sachant qu'ils risquent d'augmenter dans les années à venir, le respect de ces engagements s'avère compromis.
Une crainte partagée par les ambassades du Royaume-Uni, du Canada, d'Allemagne et de Norvège, le rapporteur des Nations Unies pour les droits autochtones pointe lui le danger pour les défenseurs de l'environnement, dont 33 ont été assassinés au Pérou ces 10 dernières années. Juliette Chénion, Puerto Maldonado, RFI.
Dossier de notre correspondante au Pérou. On termine ce... On va vous retrouver, Marine de la Moissonnière, pour continuer à feuilleter la presse du continent. On va parler d'un article du Washington Post qui a attiré votre attention. Le journal explique qu'une vingtaine d'élus républicains comptent quitter le Congrès.
Oui, et à ce rythme, à compter du 19 avril, les républicains n'auront plus la majorité au Congrès que d'une voix, souligne le Washington Post. Alors pourquoi ces élus font-ils défection avant la fin de leur mandat ? Parce que, comme le Congrès est devenu plus partisan, il est aujourd'hui plus difficile de faire voter une loi qui compte vraiment, explique le quotidien. Et la situation ne va pas forcément s'arranger à l'avenir, car pour sortir de cette impasse législative, les républicains devront non seulement seulement conservé le contrôle de la Chambre en novembre, mais aussi étoffé suffisamment leur rang pour neutraliser la poignée de tenants de la ligne dure au sein du parti, parti au sein duquel il y a également trop de tensions internes, estime un élu. Son but n'est plus de défendre les valeurs conservatrices, mais de défendre Donald Trump et de marquer des points politiques.
Marine de la Moissonnière, votre revue de presse à retrouver sur internet rfi.fr. Aux États-Unis et ailleurs sur le continent, des millions de personnes attendent avec impatience une éclipse totale du soleil aujourd'hui. Quelques minutes durant lesquelles il fera nuit. Vous le savez sans doute, mais au cas où, un petit rappel quand même. Il faut absolument des lunettes spéciales pour observer ce phénomène exceptionnel.
Le journal des Outre-mer.
Bonjour Tiziana Marone.
Bonjour Anne.
En Guadeloupe, le syndicat de l'éducation dénonce la fermeture envisagée à la rentrée prochaine du dispositif ULIS.
Oui, l'unité localisée pour l'inclusion scolaire. C'est un dispositif indispensable pour les élèves en situation de handicap. Il sera fermé au collège de Capesterre-Belleau. Une décision incompréhensible selon Sylviane Léolia, secrétaire du secteur auxiliaire de santé du syndicat. Elle répond à Jessie Blanquet.
Nous réclamons que les droits de ces enfants soient respectés. Depuis quelques années, il y a des fermetures en masse, mais est-ce qu'on va tenir compte simplement de chiffres et non pas de l'intérêt des élèves? Les décisions qui sont prises par l'administration montrent que ce n'est pas du tout ce qui est mis en avant, en fait. Donc, le CNSA, bien évidemment, s'inquiète de tout cela, puisqu'il s'agit de l'avenir de nos enfants, des enfants qui sont fragilisés, des enfants qui ont besoin, justement, de beaucoup plus d'attention. Et en fait, il n'y a pas de raison pour la fermeture du dispositif de Capesterre-Belleau. C'est ce qui est inquiétant.
En Martinique, la colère a gagné aussi les enseignants du collège de la commune du Marin. Ils sont en grève ce lundi pour dénoncer la baisse des moyens annoncée pour la rentrée prochaine. Christophe Mosbahi, professeur de mathématiques et représentant du SNES FSU, est joint par Viviane Dufaux et Dos de Martinique la Première.
On va passer de 4 classes de 3e à 3. Avec des effectifs qui vont dépasser la trentaine. Il faut savoir que le collège est sinistré. Depuis 17 ans, nous sommes dans des locaux provisoires qui ont du mal à tenir une classe de 24 élèves, surtout les troisièmes. Donc là, on a des problèmes de sécurité parce que chacun des conteneurs n'a qu'une porte. Et le pire, je crois, c'est la promiscuité. Les élèves sont les uns sur les autres. L'année prochaine, ça va être encore pire. Faire classe, c'est très, très difficile. On parle même plus de pédagogie, là. Alors, on essaie de maintenir le bateau à flot. On n'a pas encore décidé de la fin de la grève. En tout cas, aujourd'hui, c'est le premier jour. Ensuite, on se réunira tout à l'heure en Assemblée générale et on décidera pour la suite.
Ce lundi 8 avril, c'est la journée nationale des ambulanciers. L'occasion de revenir sur ce métier qui a du mal à recruter en Guyane. Enrico William, président de l'Association des transports sanitaires d'urgence de Guyane, est au micro d'Enzo Dubessé de Guyane la Première.
De plus de 300, on est passé à 30 aujourd'hui. Il y a eu une baisse drastique. Il est vrai que nous avons énormément de mal à recruter des ambulanciers ou encore des chauffeurs ambulanciers diplômés. Hein. Nous parlons diplômés, puisque pendant des années, ça nous a fait défaut, n'ayant pas d'école, d'institution pour pouvoir dispenser les cours. Aujourd'hui, alors je vous parle, nous avons 2 écoles spécialisées qui ont été agréées par la collectivité territoriale. Nous attendons la sortie de ces diplômés afin que nous puissions les embaucher.
Et c'est le mot de la fin de cette édition. Bonne journée Anne.
Merci Tiziana Marone. Merci à tous d'être avec nous. Dans quelques instants, de vive voix, juste après un grand nom du reggae, Clinton Fearon, ancien bassiste et chanteur des Gladiators. Il vient de sortir un nouvel album solo.
It's music to the soul. Laugh out loud. It's medicine for the soul. Laugh out loud. Don't be afraid, be bold. Laugh out loud. Yeah. The heart is willing, but the flesh is weak. Their spirit help us to be strong. Oh, yeah. Yeah, the heart is willing, but the flesh is weak. Oh, dear spirit, help us to carry on. That spirit said, day shine to laugh. It's
yourself nice. Yes, day time to laugh, it's your choice. Yeah, laugh out loud, it's music to the soul. Laugh out loud, it's medicine for the soul. I said, laugh out loud.
Merci d'écouter RFI. RFI Midi, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain, 11h, temps universel. Et tout de suite, de vive voix, Chantal Leroux reçoit le rappeur Yacine Stein pour son album « C'est Dieu qui dessine ».